d'ail, mais on reste encore, vous l'avez dit, 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison selon Météo France. Comptez 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 16 plus au sud, jusqu'à 18 et c'est la maximale pour Biarritz et Ajaccio.
Merci Céline, merci à vous tous d'écouter France Info. Bon après-midi, il est 13h. C'est le journal de Benjamin Recouvreur. Bonjour Benjamin.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Et à la une, la production de Brandt bientôt à l'arrêt.
La justice a prononcé la liquidation judiciaire du groupe français, dernier producteur de gros électroménagers en France. 700 emplois vont être supprimés, les salariés sont abasourdis. Un repas de Noël qui pèse moins lourd à la caisse du supermarché cette année. Les prix sont légèrement à la baisse, ce qui n'empêche pas de chercher les bons plans. Reportage à Saint-Étienne. À suivre aussi, Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, assure avoir bénéficié d'une aide américaine pour sortir du Venezuela. Jordan Bardella reprend des thèses trumpistes sur la BBC. Et puis un magnum de champagne british et royal mis aux enchères cet après-midi, on vous raconte. Le ciel qui leur tombe sur la tête ce matin, les 700 salariés de Brandt, entre colère et déception, le tribunal des affaires économiques de Nanterre a donc prononcé la liquidation judiciaire du groupe centenaire d'électroménagers, le dernier qui produisait encore en France de gros équipements. Le projet de SCOP, de société coopérative qui était soutenu par le gouvernement, n'a pas été retenu. François Bonneau est président de la région Centre-Val de Loire où se trouvent les deux usines de production et il ne comprend pas.
La stupeur parce que on a tout fait pour remonter ce projet industriel autour de marques qui ont de la valeur, qui ont du sens pour nos concitoyens. On a mobilisé l'action publique à un niveau jamais atteint. La région a plus de 7 millions d'euros, la métropole d'Orléans, tout pareil. L'État venant en soutien. On a des salariés qui sont mobilisés dans l'aventure avec une SCOP. Toutes les conditions sont réunies pour que le Made in France prenne sens. La question que je pose, c'est quelle crédibilité peut-on avoir quand on parle du Made in France, alors que lorsque tout le monde est aligné pour faire que le Made in France reste en France, on perd.
La réaction et la déception de François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, invité de France Info. Des centaines d'agriculteurs mobilisés et toujours déterminés en Ariège, rassemblés près d'un élevage de Bordes-sur-Arize pour empêcher l'abattage de 200 bovins prévus aujourd'hui, après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire. Le préfet du département assure que c'est la meilleure solution pour protéger le cheptel français, mais reconnaît une situation dramatique. C'était une proposition portée par les socialistes sous soutenu par les défenseurs des droits des enfants, l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité une loi pour garantir un avocat à chaque enfant placé en famille d'accueil ou en foyer. C'était aussi l'une des recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur l'aide sociale à l'enfance.
Des courses de Noël, Benjamin, un peu moins chères cette année.
Moins 1% par rapport à l'an dernier, selon le panier de Noël France Info ici. C'est ce que confirme aussi le patron des Mousquetaires auquel appartient Intermarché, Thierry Cotillard, invité de France Info. Mais on ne reviendra jamais au prix d'avant, dit-il. Cette année, le chocolat est plus cher, mais le prix de la bûche glacée a bien baissé. Dans tous les cas, les bons plans sont toujours les bienvenus, comme ici dans les rues de Saint-Étienne, Jules Frécon.
Pour cette année, Gwenaël a déjà acheté une partie de son repas du réveillon.
Quand c'est la saison, par exemple, des Saint-Jacques fin novembre, je vais les acheter fin novembre, j'essaye de penser avant et de les congeler. Il y a possibilité de trouver quand même des offres intéressantes et de sauter sur les promotions. Ouais.
Daniel ne sait pas encore ce qu'elle mangera le 25 décembre, mais une chose est sûre, elle utilisera ses astuces pour profiter de prix réduits.
Les Too Good To Go, c'est un panier de produits à date plus courte qui sont vendus moins cher qu'en commerce. Après, il y a aussi le système des paniers dans les supermarchés. C'est vrai qu'on choisit pas forcément, mais il y a par exemple chez Intermarché qui font des paniers marées.
Sur le parking du supermarché, Mylène range ses sacs de courses dans sa voiture. Elle a commencé ses achats de Noël et elle remarque des prix plus hauts cette année.
Tout ce qui est repas de Noël, ça a vraiment augmenté.
Comment vous faites du coup pour essayer de payer un peu moins cher ?
Eh bien écoutez, vu que pour une fois dans l'année on fête Noël, donc on va pas se priver.
Dans son sac, Mylène a glissé des chocolats, un des produits les plus impactés par la hausse des prix. Il coûte en moyenne 20% plus cher que l'an dernier.
Reportage signé Jules Frécon, ici Saint-Étienne-Loire pour France Info. Frédéric Péchier est l'un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française, selon l'accusation qui a commencé ses réquisitions ce matin au procès de l'anesthésiste devant les assises du Doubs à Besançon. Il est accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels entre 2008 et 2017 dans plusieurs cliniques. Tout ramène à lui la science, les statistiques, notent les avocates générales qui dénoncent le crime le plus diabolique qui soit. Lui continue de clamer son innocence, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La décision sera rendue le 30 décembre. La cour administrative d'appel de Toulouse s'est penchée ce matin sur la poursuite du chantier de l'autoroute A69. Nouvelle étape cruciale pour cet axe controversé entre Castres et Toulouse. Le rapporteur public réclame la poursuite des travaux, demande de revenir sur l'annulation de l'autorisation environnementale du chantier.
Elle promet d'aller jusqu'au bout de son combat.
Son combat, la lutte pour la démocratie au Venezuela. Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, opposante farouche à Nicolas Maduro, est encore à Oslo, en Norvège, où elle a reçu son prix hier. Beaucoup s'interrogent encore sur sa fuite du pays. Comment a-t-elle pu arriver jusqu'en Norvège? Elle assure avoir reçu de l'aide des États-Unis. Maria Corina Machado, qui s'est exprimée face à la presse ce matin devant le Parlement norvégien.
Je ne pense pas qu'ils aient su où j'étais et ils auraient certainement tout fait pour m'empêcher de venir ici. Je voudrais remercier tous ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour que je puisse être ici aujourd'hui. Un jour, je pourrai vous le dire, car je ne veux certainement pas les mettre en danger pour l'instant. Ça a été une expérience assez forte, mais je pense que ça vaut la peine d'être ici avec vous pour raconter au monde ce qui se passe au Venezuela, ce que ça signifie pour vous en tant que Norvégiens et Européens, ou pour tous ceux qui viennent d'ailleurs, pourquoi le Venezuela compte pour le monde. Je veux dire, quand on se bat pour la liberté, on se bat pour l'humanité.
Une nouvelle réunion de la coalition des volontaires, les alliés de Kiev, est prévue en visioconférence cet après-midi pour avancer sur les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine. Une proposition sur les concessions territoriales ukrainiennes ont été soumises au président américain. C'est ce que dit par ailleurs ce matin le chancelier allemand Friedrich Merz. Jordan Bardella traverse la Manche pour une visite express au Royaume-Uni et un déjeuner avec Nigel Farage, leader de l'extrême droite britannique qui a longtemps refusé de s'allier à Marine Le Pen. Avant de rentrer en France, le patron du Rassemblement National a aussi donné une longue interview à la BBC, Pierrick Bonneau, dans laquelle il adhère notamment aux théories civilisationnelles de Donald Trump.
Le parti n'a fait aucune publicité de ses 45 minutes d'entretien accordé à la BBC. Interrogé d'abord sur la mise en garde américaine contre un effacement civilisationnel, Jordan Bardella dit partager la plupart des préoccupations exprimées par l'administration Trump et développe l'immigration massive et le laxisme de nos gouvernements ces 30 dernières années en matière de politique migratoire déstabilise les pays européens et notamment la société française. Relancé par le journaliste britannique, le patron du RN évoque la situation dans les banlieues françaises où une autre culture prend racine, dit-il, sous le joug du totalitarisme islamiste. Jordan Bardella fait le lien entre immigration et criminalité, défend l'assimilation. Qu'est-ce qu'être français, lui demande le journaliste. Réponse de celui qui pourrait défendre les couleurs du RN à la présidentielle.
Être
français dépasse largement le cadre administratif. C'est avoir le cœur qui saigne le jour où Notre-Dame brûle.
Pierrick Bonneau, enfin, c'est un champagne royal servi lors du mariage du prince Charles et de Lady Di en 1981. Une bouteille exceptionnelle de Dom Pérignon est mise en chaire cet après-midi au Danemark. Soline de Maistre, les amateurs devraient être nombreux.
Un magnum très rare, il n'en existe que 12 comme celui-ci dans le monde. Millésime de 1961, l'année de naissance de Lady Diana, le champagne avait été dégorgé, débarrassé de son dépôt donc, et étiqueté à l'occasion de son mariage historique avec le prince Charles le 29 juillet 1981. Le propriétaire actuel du magnum, qui veut rester anonyme, l'avait acheté auprès d'un marchand londonien. Alors comme on peut s'en douter, l'étiquette est un peu jaunie, mais la bouteille peut parfaitement se boire, selon le spécialiste des vins de la maison d'Anne Brune Rasmussen, en charge de la vente. Des tests ont été réalisés, notamment en éclairant la bouteille pour vérifier que la couleur du vin est bien claire. C'est ce qu'avait expliqué l'expert la semaine dernière lors de la présentation du Magnum. Un Magnum qui pourrait intéresser, selon lui, aussi bien les amateurs de vin que les collectionneurs d'objets royaux ou liés à la princesse Diana. Elle est estimée entre 68 000 et 80 000 euros.
Voilà, si vous êtes intéressé, Marie, pour le réveillon, oui. Pourquoi pas, la vente a lieu à partir de 18h, c'est à Copenhague, mais je pense qu'on peut participer à distance.
Oh bah bien sûr, une paille vous m'inviterez. Idéale pour les fêtes de fin d'année. Benjamin Recouvreur, merci.
Ils bousculent les idées reçues, ils font bouger les lignes, ils se confient à Paul Larotureau. Découvrez Pour Info sur la chaîne YouTube de France Info.
Max Lollome signe une série documentaire passionnante baptisée High School Radical.
On est en 2014 et je passe un an dans un lycée américain.
10 ans après, il est retourné voir ses amis américains qui sont tous devenus Trumpistes.
Pour Info, présenté par Paul Larotureau, l'émission qui met en lumière ceux qui racontent notre époque.
À retrouver sur la chaîne YouTube de France Info et sur l'application Radio France. France Info, midi 15h, Marie Bernardo.
Et nous sommes à présent en Ariège avec Théo Cobel, ici Occitanie. Bonjour Théo.
Bonjour.
L'Ariège où un troupeau de bovins doit être abattu en raison encore d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse. Plusieurs centaines d'agriculteurs se sont rassemblés autour de ce village des Bordes-sur-Arize pour bloquer les routes autour de l'exploitation et tenter ainsi d'empêcher les services vétérinaires d'euthanasier les 207 bovins, Théo.
Oui, les agriculteurs qui se préparent au rapport de force positionné, vous le disiez, avec leurs tracteurs de chaque côté de cette route qui mène à la ferme, plusieurs niveaux de barrages pour tenter de bloquer le plus possible une avancée des forces de l'ordre. La tension qui est vraiment montée d'un cran ici, il y a un peu plus d'une heure, tout juste lorsque les représentants du mouvement ont annoncé le rejet par les services de l'État du protocole d'accord, celui proposé hier par les syndicats agricoles, et donc l'arrivée possible des forces de l'ordre pour permettre à l'abattage des bêtes par les services vétérinaires. On a vraiment senti dans la foule tout d'un coup une montée de la colère, une détermination aussi pour sauver ces 207 vaches, pour soutenir également l'agriculteur touché. Les manifestants qui se sont donc positionnés et s'échangent en ce moment même des vidéos prises un peu plus bas dans la vallée où on voit justement les fourgons de CRS avancer.
Et vous nous tenez au courant, nous reviendrons vers vous dans les minutes, les heures qui viennent. Théo Cobel, ici Occitanie, en direct des Bordes-sur-Arize. Édouard Marguier, spécialiste agriculture de France Info, nous a rejoint. Bonjour Édouard.
Bonjour.
C'est donc là une nouvelle manifestation de colère des agriculteurs sur ce même sujet.
Oui, effectivement, ce qui se passe en Ariège aujourd'hui, c'est exactement la même chose en plus grand, j'avais envie de dire, que ce qui s'est passé dans le Doubs la semaine dernière. La Confédération Paysanne, troisième syndicat, avec la Coordination Rurale, deuxième syndicat agricole, qui s'oppose donc à l'abattage d'un troupeau, qui s'oppose plus largement aux mesures de l'État pour lutter contre cette maladie. Les gendarmes, la semaine dernière, avaient dû utiliser du gaz lacrymogène pour accéder à cette exploitation et pour abattre le troupeau. On verra ce qui va se passer dans le sud-ouest.
Et on va voir ce que peut devenir effectivement ce mouvement avec vous. Édouard, mais arrêtons-nous sur cette maladie précisément avec vous, Valentine Joubin, cellule décryptage de France Info. Quelle est cette maladie, la dermatose nodulaire, apparue pour la première fois en France à la fin du mois de juin?
Oui, la DNC, c'est une maladie qui touche uniquement les bovins. Elle se transmet dans la majorité des cas par la piqûre d'une mouche ou d'un thon. La transmission d'une vache à une autre est beaucoup plus rare. La DNC n'est pas transmissible à l'homme, ni par contact avec des insectes ou bovins infectés, ni en consommant de la viande de bêtes contaminées. Comment la maladie se manifeste? Alors la particularité de la dermatose nodulaire, c'est que le temps d'incubation est long, 2 semaines en moyenne, mais il peut parfois s'écouler jusqu'à 1 mois avant que les symptômes typiques de la maladie n'apparaissent. Ça commence généralement par de la fièvre, des signes de grande fatigue, des écoulements aux yeux et au nez, et puis des nodules se multiplient sur les muqueuses de l'animal, des petites bosses, d'où le nom de dermatose nodulaire. La DNC est extrêmement contagieuse, mais toutes les bêtes contaminées n'en meurent pas. Le taux de mortalité est évalué en moyenne à 10% du troupeau et ça peut monter à 45% pour certaines races laitières.
Alors quels sont les moyens, Valentine, de lutte contre la DNC? L'abattage des troupeaux où la maladie a été identifiée, mesure très contestée, on vient de l'entendre, en fait partie.
Oui, la dermatose nodulaire contagieuse est classée maladie de catégorie A par le droit européen, ce qui oblige la France à mettre en place sans délai des mesures pour l'éradiquer. La principale mesure, c'est l'abattage des troupeaux où la DNC a été détectée. Depuis fin juin, plus de 2700 animaux ont été euthanasiés. Un peu plus de la moitié l'ont été dans une zone qui se situe entre la Haute-Savoie, la Savoie et l'Ain. En plus de l'abattage des bêtes, le plan d'urgence prévoit aussi des zones réglementées autour des foyers de contamination où les déplacements de troupeaux sont limités et l'état de santé des bêtes scruté. Et puis une campagne de vaccination est en cours. Elle se limite aux élevages qui sont autour des foyers contaminés, car vacciner plus largement obligerait à stopper net les exportations de vaches et de veaux français.
Est-ce qu'on sait comment la maladie, la dermatose nodulaire, est entrée en France ?
Il n'y a aucune certitude, hein, seulement des hypothèses. La DNC serait arrivée en France via l'Italie, plus précisément de la Lombardie, où un foyer a été identifié le 22 juin dernier. Le premier cas français a été identifié une semaine plus tard dans le département voisin de la Savoie. La DNC pourrait avoir été importée en Italie depuis la Tunisie, un pays très touché par cette maladie. La dermatose nodulaire est présente au Maghreb de façon endémique depuis le début des années 2000, mais aussi en Afrique subsaharienne et en Asie depuis plus longtemps encore.
Et je me tourne à nouveau vers vous, Édouard Marguier, spécialiste agriculture de France Info. Nouvelle manifestation donc aujourd'hui en Ariège, nous y étions. Manifestation également dans les Hautes-Pyrénées. Le mouvement de contestation fait tache d'huile, comment l'expliquer ?
Alors ça couve depuis longtemps, hein, depuis même l'apparition de la maladie en Savoie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Confédération Paysanne, très vite rejointe d'ailleurs par la Coordination Rurale, remet en cause la stratégie de l'État depuis la propagation de la maladie à d'autres régions que la Savoie. Car cette maladie est arrivée dans l'Ain, dans le Jura, dans le Doubs, puis dans le Sud-Ouest. C'est la preuve pour ces syndicats que l'abattage est inutile. Perdre un troupeau, il faut le rappeler, il faut le souligner, c'est terrible pour un éleveur. Il perd des dizaines d'années de travail, car un troupeau, ça se construit. Même s'il est indemnisé, il perd quand même beaucoup. Et c'est pourquoi il demande d'euthanasier uniquement les bêtes malades. Ça, ils demandent depuis cet été. Ils veulent ainsi exposer toutes les autres vaches à cette DNC. Ils proposaient même de faire cette exploitation dans l'Ariège un test grandeur nature, un protocole alternatif qui a donc été refusé. Théo Cobel, le reporter, nous le disait il y a quelques instants. L'État, de son côté, en revanche, affirme que c'est une bonne stratégie, car ces mesures, abattage, vaccination autour des foyers et interdiction de transport d'animaux, sont efficaces dans les zones qui ont été touchées. La Savoie, par exemple, est sortie de ses règles. Elle n'est plus en zone réglementée, comme le Rhône, d'ailleurs. Pour l'État, la DNC continue de se propager à cause, finalement, d'éleveurs qui ne respectent pas ces règles. Certains, dans des zones touchées, c'est avéré, ont bougé des bovins malgré les interdictions. Et puis, il faut aussi relativiser le nombre de bovins abattus. 3000 vaches abattues depuis cet été sur 16,5 millions de bovins en France, 74 élevages concernés sur 146 000 exploitations consacrées à l'élevage en France.
Pourquoi l'ont-ils fait alors ?
Eh bien parce qu'ils veulent continuer à travailler, ces éleveurs, dans un contexte où le prix de la viande bovine est très haut. Le prix carcasse, c'est-à-dire le prix moyen, c'est ce qui revient à l'éleveur, est à quasiment 9 euros le kilo actuellement. C'est 20% de plus que l'an dernier. Des éleveurs, me l'ont dit, n'ont jamais vu ça de leur carrière. C'est donc tout sauf le bon moment de perdre son cheptel. C'est pourquoi on assiste à ça dans des terres d'élevage. Le Doubs, évidemment, terre de production du comté, en sachant qu'une vache laitière, quand elle vieillit et qu'elle ne peut plus faire de lait, elle devient une vache de réforme destinée à la viande. Et le Sud-Ouest, on l'a entendu, avec des élevages de bovins destinés à la viande.
Alors, les syndicats agricoles, Edouard, demandent la généralisation de la vaccination à tous les bovins du pays. Pourquoi la ministre refuse-t-elle ?
Eh bien, parce que les conséquences économiques seraient désastreuses. C'est la Coordination Rurale qui le demande, ainsi que la Confédération Paysanne. Parce que si la France décide de vacciner tous ses bovins, elle reconnaît que la maladie est partout. Elle perd donc son statut de pays indemne. Donc on ne peut plus exporter. Sauf que la filière de production de viande bovine en France a besoin de l'étranger. En France, on fait naître des veaux qu'on envoie en Italie ou en Espagne pour être engraissés. Ils ont développé ces filières, ce sont les meilleurs en Europe pour cela. Et puis on récupère ces animaux, ces bovins, pour être abattus en France et consommés en France. Si la France perd son statut indemne, ça bloque tout pendant 14 mois, alors que c'est une filière importante. Nous sommes le premier pays exportateur d'animaux vivants au monde. Les montants générés par les envois de bovins ont dépassé le milliard d'euros l'an dernier, selon les douanes. Sauf accord. Parce que la France a réussi à en passer un avec l'Italie il y a 3 jours seulement, mais sur la stratégie actuelle, l'Italie n'a pas dit oui pour toutes les régions. Elle a dit oui pour les zones réglementées, les zones touchées. Cet accord permet donc aux bovins vaccinés et aux veaux nés de mères vaccinées des zones touchées donc d'être expédiés vers l'Italie, sous réserve évidemment d'une protection très, très drastique. Au dernier Parlement de l'élevage, c'est comme ça qu'on appelle ce lieu de réunion avec tous les acteurs de la filière, la ministre a dit réfléchir quand même à une vaccination généralisée avec une clause de revoyure en janvier. Ça pourra peut-être bouger avant, vu la contestation qui se met en place. Une réunion, me dit-on, est en cours au ministère de l'Agriculture en ce moment même.
Est-ce que ça peut être le début, Edouard, ce sera ma dernière question, d'un mouvement d'ampleur ?
Ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très, très très tendue dans le monde agricole en ce moment. Et ce n'est pas un hasard si la situation est en train de déraper, d'échapper aux autorités dans le sud-ouest. La coordination rurale a pris bon nombre de chambres d'agriculture il y a un an. Ils sont en opposition frontale avec l'État. Et le nouveau président Bertrand Ventot, lui-même éleveur de vaches limousines en Haute-Vienne, a été élu à la tête du syndicat car il prône des actions musclées. Et puis, je vais le redire, le souligner ici, il y a toujours ce projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. La réunion des 27 dirigeants européens la semaine prochaine à Bruxelles va décider du sort de ce traité. On va tout droit vers une signature, il faut le dire clairement, parce que la France semble seule à s'opposer à ce projet de traité. Un accord qui prévoit, on le dit, on le rappelle ici, l'importation de viande bovine, 99 000 tonnes de viande bovine à droit de douane réduit.
Édouard Mardi, merci, spécialiste agriculture de France Info. Le choix de France Info à suivre, on s'intéresse ce jeudi aux notes de frais des maires avant les municipales. Le fil info pour l'instant, 13h20, et la déception pour les salariés de Brandt, Benjamin Recouvreur.
La justice a prononcé ce matin la liquidation judiciaire du fabricant d'électroménager français. 700 emplois vont être supprimés. Le gouvernement qui soutenait le projet de reprise en société coopérative a dit sa tristesse pour ce fleuron français. Un an et demi après les émeutes en Nouvelle-Calédonie, l'État condamné à verser 28 millions d'euros à l'assureur Allianz pour ne pas avoir assuré un niveau raisonnable de sécurité malgré les signaux convergents et les alertes sur une possible insurrection à venir, selon le tribunal. Un avion de tourisme s'est écrasé près de l'aéroport du Havre en Normandie. Le pilote a été retrouvé mort. L'appareil a changé brutalement de cap lors du décollage pour une raison qui reste inconnue à ce stade. Et puis plus de 600 objets de l'Empire britannique et d'une importante valeur culturelle ont été volés dans un musée de Bristol dans le sud-ouest de l'Angleterre. Vol qui remonte au mois de septembre. La police diffuse aujourd'hui les images des quatre suspects et appelle le public à l'aider à les identifier.
France Info. Leur col à l'écharpe, les notes de frais, nouvelle arme contre les maires sortants dans la campagne des municipales. Dans un contexte budgétaire très tendu, les montants de ces notes de frais, restaurants, déplacements, vêtements et ainsi de suite, de certains élus, sont montrés du doigt par leurs oppositions. La plus emblématique, Anne Hidalgo à Paris, avec un peu plus de 19 000 euros l'année dernière et l'achat de vêtements de luxe. Polémique qui touche maintenant plusieurs villes comme celle de Chartres. Bonjour Paul Tillier.
Bonjour à tous.
Chartres, où le maire bénéficie d'une enveloppe deux fois plus importante que celle de la maire de Paris.
Au pied de la cathédrale de Chartres, Marie-Chantal hausse les épaules. 42 000 euros de frais de représentation tous les ans, rien de choquant.
Il y a beaucoup de dépenses qu'on a du mal en ce moment, surtout en période de crise, mais c'est vrai que la ville a été dynamisée. On n'a rien sans rien, et puis bon, c'est maintenant, c'est venu monnaie courante.
En revanche, pour Patrick, la pilule ne passe pas.
Des justificatifs, moi, ça m'arrangerait bien quand même. Parce que ça manque un peu, hein. Qu'on sache d'où exactement viennent ces frais. On manque un peu de transparence en France. Hein.
Dans le détail, le maire d'hiver droite de Chartres, Jean-Pierre Gorge, touche chaque année 24 000 euros pour couvrir ses frais en tant que maire et 18 000 euros pour la présidence de la métropole. Ses opposants attaquent Ladislas Vergne, candidat sans étiquette à la mairie.
Quand on représente la ville de Chartres, il est tout à fait normal d'avoir des dépenses de représentation. Le problème, c'est de ne pas être en capacité de justifier quoi que ce soit. 42 000 euros, 450 000 euros depuis 2014, zéro justificatif. C'est vrai que ça interroge.
Cette question est soulevée depuis des années par le conseiller municipal Olivier Maupu, écologiste.
Pendant le confinement, il aurait pu y renoncer de manière assez classe en disant « Bon, écoutez, effectivement, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de restaurant, j'invite personne, je n'en ai pas besoin de ces frais de représentation. » Les élus de la majorité ont voté contre ce vœu. Quelque part, c'est comme si c'était un salaire supplémentaire qui se versait.
Le maire Jean-Pierre Gorge n'a pas souhaité nous répondre, mais fin novembre, en conseil municipal, il a réagi à cette polémique. Agacé.
Tout est légal. Vous dites n'importe quoi. Ici, tout est regroupé, mutualisé, transparent. Pas de frais cachés.
Le maire de Chartres, droit dans ses bottes. Pas de justificatif dans son cas. La loi ne l'y oblige pas. Il bénéficie d'une enveloppe forfaitaire votée en conseil municipal et en dispose, comme bon lui semble, une enveloppe proportionnée et frugale, selon la mairie, qui, je cite, pourrait même être érigée en modèle de gestion.
Alors, certes, c'est légal, mais toutes les mairies, Paul, n'utilisent pas de la même façon cette enveloppe forfaitaire. La plupart font un autre choix et doivent justifier leurs dépenses. Et là aussi, ça pose question.
Printemps 2024, l'association Transparence Citoyenne demande des comptes à toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Sont épinglées Anne Hidalgo à Paris et ses robes de luxe, Sophie Joissin à Aix-en-Provence pour la pose de fossiles, ou encore Robert Ménard pour ses déplacements de Béziers à Paris. Guillaume Leroy est le président de la l'association Transparence Citoyenne.
On a décidé de travailler sur les notes de frais des maires. Pourquoi ? Parce que c'est le seul élu qui profite encore d'une bonne image auprès des électeurs. Donc on se bat pour un système qui, à mon sens, peut fonctionner, à condition d'avoir des élus qui sont là pour servir et non pas pour se servir.
L'immense majorité des mairies est en règle, selon l'association Transparence Citoyenne, qui se décrit comme apolitique. Elle a pourtant bénéficié des financements de la part du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin. Guillaume Leroy se défend.
On a autant saisi les tribunaux contre Anne Hidalgo que contre M. Estrosi ou Louis Alliot à Perpignan, vice-président du RN. Et je le dis ici, les notes de frais de Louis Alliot, une fois qu'on les aura obtenues parce qu'on va les obtenir, seront rendues publiques.
En vue des municipales, une autre association Anticor qui lutte contre la corruption en politique propose une charte au maire. Florence Ranglais, administratrice chez Anticor.
Un guide complet où on dit à l'élu, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez pas faire. Là, si vous faites ça, quel risque vous prenez? C'est de publier sur le site de la mairie toutes les dépenses qui seraient faites. Et l'autre moyen de contrôle, c'est de donner par exemple une commission de contrôle des frais de représentation à l'opposition pour que les choses soient encadrées.
L'exemplarité sera l'un des enjeux de la campagne et il y a du travail, reconnaît Bruno Cotresse, chercheur au Cevipof.
Les Français ont principalement de leur politique l'image d'une caste à part qui vit dans son propre monde avec ses propres codes, qui n'a pas de grosse capacité à comprendre ce que vivent les gens dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire galérer pour payer ses factures. Mais c'est sûr que d'avoir un certain nombre de cas emblématiques, des notes de restaurant, des frais en matière de vêtements, ça n'est plus du tout aujourd'hui dans l'air du temps.
Les notes de frais des maires sortants pourraient bien leur coûter cher dans les urnes.
Paul Tillier pour le choix de France Info de ce jeudi que vous retrouvez comme d'habitude sur franceinfo.fr. Vous venez peut-être de les sortir de leur carton si la crèche fait partie de vos rituels de fin d'année. Les Santons de Provence exigent une indication géographique, une IG, pour garantir la provenance de leur production, comme pour la dentelle de Calais ou comme pour la porcelaine de Limoges. Les artisans vont déposer leur demande dans quelques jours. Ils ont bon espoir de l'obtenir d'ici quelques mois. Marina Capitaine les a rencontrés à la foire aux Santons de Marseille qui a lieu en ce moment sur le Vieux-Port. Reportage.
Des rois mages à la lavandière, en passant par l'âne et le bœuf, les personnages de la crèche exhibent leurs couleurs vives dans les baraques des Santonniers. C'est la 233e édition de cette foire, chapeautée par ce monsieur.
Michel Bouvier, Santonnier. Je suis enrhumé, hein, vous avez vu la voix que j'ai.
Michel Bouvier préside aussi l'association créée spécialement pour obtenir cette indication géographique pour les Santons de Provence.
Le déclic, ça a été quand un Santonnier a avoué qu'il avait délocalisé une partie de sa production en Tunisie. On a eu peur que d'autres Santonniers fassent comme lui.
La tradition des Santons dépasse de loin le culte religieux et la Provence. Il s'en vend plus d'un million chaque année pour un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros, selon l'Union des fabricants. Répondre à cette demande est un défi, puisque chaque pièce artisanale exige des heures de travail. Gisèle Beaumont est santonnière depuis 52 ans.
Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on peint un santon comme on s'habille le matin. C'est-à-dire qu'on commence toujours par le visage et les mains, parce que quand vous avez pris votre petit déjeuner, vous allez vous laver les dents. Donc on commence par le visage, les mains, et on habille le santon. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre une cape, hein, de mettre une veste avant d'avoir mis la chemise. Ben là, c'est, le santon, c'est pareil. Et il faut voir que c'est bien de l'argile, hein, parce que le santon, en Provence, il faut qu'il soit en argile. Il suffit de tourner le socle. Normalement, tous les santonniers ont un tampon et tamponnent.
Une fois acceptée, l'indication géographique sera elle aussi sur ce tampon pour garantir la qualité et justifier le prix. Aujourd'hui, pour la taille la plus courante, 12 cm, un personnage coûte une vingtaine d'euros. Un budget qui peut donc vite devenir conséquent quand on agrandit sa crèche chaque année comme Gabriel.
Je suis né à Marseille, ça fait 51 ans que je fais la foire aux Santons, que je viens la voir. C'est ce qui réunit tout le monde, c'est ce qui rend la maison beaucoup plus chaleureuse et qui nous fait retrouver nos racines provençales. Chaque année, on en rajoute. Les traits des santons, c'est très important. Moi, je cherche des santons avec beaucoup de rides, vieux provençaux, quoi.
Vous avez des chouchous dans les personnages de votre crèche ?
Des chouchous, non. Mais il y en a un que j'ai attendu pendant très longtemps. Ça a été le cagadou que je me suis offert l'année dernière.
C'est quoi le cagadou ?
Le cagadou, c'est le petit cabanon au fond du jardin où on va faire caca.
Les santonniers provençaux y croient à cette indication géographique l'an prochain et ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent aussi une inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Reportage signé Marina Capitaine.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Quel temps fait-il, Céline Dacosta?
Les nuages bas jouent les prolongations sur la moitié nord, avec même quelques ondées sur le nord-ouest et une nouvelle perturbation qui arrivera par la Bretagne dans la soirée. Plus au sud, en revanche, l'ambiance est plus lumineuse. Du sud-ouest à la région PACA, en passant par le massif central, de belles éclaircies réussissent à percer les nuages et le vent d'automne se met en place sur les plaines toulousaines. En revanche, on a toujours des nuages bas et nombreux sur le Languedoc-Roussillon. Quant aux températures, elles restent plutôt douces et toujours au-dessus des normales de saison selon Météo France. On prévoit 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 16 degrés plus au sud. Et pour la maximale, on ira jusqu'à 18 degrés à Biarritz ou encore à Ajaccio.
Merci Céline, vous êtes sur France Info, il est 13h30. Lors d'un nouveau point sur l'info, Mélanie Delaunay.
Il manquait 4 millions d'euros pour sauver Brandt, affirme le maire d'Orléans et président de la métropole, très en colère après la liquidation judiciaire du fabricant d'électroménagers et le licenciement de près de 700 salariés. Tout le monde a été mis devant le fait accompli, dit Serge Grouard. Il reproche aux banques en particulier de s'être, dit-il, défilé alors que les collectivités locales, l'État, avaient annoncé soutenir un projet de reprise sous forme de scope de coopérative à hauteur de 20 millions d'euros, projet qui n'a donc pas été retenu par la justice. Et garantir à un avocat, aux enfants placés ou suivis par les services sociaux, cette proposition de loi socialiste est adoptée à l'unanimité par les députés. Les sénateurs devront se prononcer à leur tour sur cette mesure qui doit concerner 380 000 jeunes. Si le garçon dont la tête a été tondue dans un foyer parisien avait eu un avocat, peut-être que les éducateurs n'auraient pas osé, estime la députée qui porte ce texte, Aïda Adizadeh, deux jours après la révélation de ce scandale par France Info. Décision le 30 décembre sur l'avenir du chantier de l'A69. La Cour administrative d'appel de Toulouse rendra son arrêt sur la poursuite ou non de ces travaux d'autoroute contestés entre Castres et Toulouse. Après l'audience qui s'est tenue ce matin, le rapporteur public, dont l'avis est le plus souvent suivi, souhaite que le chantier continue. En près de 4 ans de guerre, c'est l'une des plus grosses attaques de drones menées par l'Ukraine. La nuit dernière, la Russie dit en avoir intercepté près de 290, Sylvain Tronchet.
Comme toujours, le ministère russe de la Défense ne parle que des drones abattus et il est difficile d'évaluer les dégâts ou même de savoir s'il y a des victimes. Mais d'après certaines images d'habitants qui circulent sur les réseaux sociaux, deux usines de fertilisants ont été visées dans les régions de Smolensk et de Veliki Novgorod. Dans la région de Voronezh, le gouverneur dit que le réseau électrique et le système de chauffage ont été endommagés par endroits. Dans le Grand Moscou, où une quarantaine de drones ont été abattus, les 4 aéroports de la capitale ont dû être fermés cette nuit. Plus de 200 vols ont été annulés. Des centaines de passagers ont dormi à même le sol dans les aérogares. Des dizaines d'avions ont dû être détournés, comme celui du premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui doit assister aujourd'hui à Moscou à une réunion de l'Union économique eurasiatique. Après avoir tourné en rond pendant une heure, il a finalement atterri à Saint-Pétersbourg. Les aéroports moscovites ont rouvert en cette fin de matinée.
Et Sylvain Tronchet à Moscou sur France Info. Pour France Info, une grève générale au Portugal pour la première fois depuis 12 ans. Ça provoque de grosses perturbations dans le pays, dans les transports, les écoles, les hôpitaux aussi. Et il y a des manifestations contre un projet de réforme du Code du travail qui va, selon les syndicats, faciliter les licenciements et normaliser la précarité. Le FC Nantes espère qu'Ahmed Kantari va trouver rapidement les clés de la relance. Il vient d'être nommé entraîneur au lendemain du limogeage de Luis Castro, arrivé cet été, déjà remercié à cause des mauvais résultats. Nantes est actuellement 17e du championnat de Ligue 1 de football, premier relégable. Le prochain match pour les Nantais, c'est demain contre Angers.
Mélanie Delaunay, merci. Dans moins de 10 minutes, la fin de Brandt. La justice prononce donc la liquidation judiciaire du groupe d'électroménagers. Près de 700 emplois supprimés, des salariés sidérés, vous l'entendrez. Pour l'heure, 13h33 et la réapparition de la prix Nobel de la paix.
France Info, midi 15h. Marie Bernardo.
Première image publique de la prix Nobel de la paix depuis quasiment un an. L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado apparue la nuit dernière au balcon du Grand Hôtel d'Oslo en Norvège. Arrivée trop tard pour assister à la cérémonie de remise du prix Nobel, mais arrivée malgré tout au prix d'une fuite haute en couleur. Bonjour Marwaman.
Bonjour Marie.
Elle qui vit dans la clandestinité dans son propre pays, elle s'est exprimée tout à l'heure.
Oui, après la remise de prix hier marquée par son absence, Maria Corina Machado a donc pris la parole ce matin lors d'une conférence de presse durant laquelle elle est revenue sur ses 11 mois de clandestinité au Venezuela avant cette fuite rocambolesque. Une vie contrainte à se cacher dans la capitale Caracas, au nez et à la barbe des forces de sécurité vénézuéliennes. Maria Corina Machado.
Je ne pense pas qu'ils aient su où j'étais et ils auraient certainement tout fait pour m'empêcher de venir ici. Je voudrais remercier tous ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour que je puisse être ici aujourd'hui. Un jour, je pourrai vous le dire, car je ne veux certainement pas les mettre en danger pour l'instant. Ça a été une expérience assez forte. Quand on se bat pour la liberté, on se bat pour l'humanité.
Alors on comprend, Omar, en écoutant la bête noire du régime de Nicolas Maduro, que sa fuite rocambolesque n'aurait pas été possible sans des complicités à l'intérieur du Venezuela, mais aussi sans l'appui des États-Unis.
Oui, Maria Corina Machado a d'ailleurs confirmé ce matin avoir bénéficié de l'aide de Washington, une aide cruciale. Le quotidien américain, le Wall Street Journal, qui a reconstitué ce périple, révèle qu'elle a quitté Caracas déguisée et coiffée d'une perruque, franchit 10 points de contrôle militaire avec deux complices avant de rejoindre un village de pêcheurs sur la côte où elle est montée sur une embarcation en bois direction Curaçao, l'île des Caraïbes, au large du Venezuela. De là, elle a pris un jet privé pour les États-Unis avant de s'envoler vers la Norvège. Et ce matin, à Oslo, très émue, elle a affirmé vouloir ramener le prix Nobel de la paix au Venezuela.
Bien sûr que je retournerai au Venezuela. Je connais exactement les risques que je prends. Ce que j'ai dit au peuple vénézuélien depuis le début, c'est que je serai dans le lieu où je suis la plus utile pour notre cause. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'endroit où je pensais devoir être était le Venezuela. L'endroit où je crois devoir être aujourd'hui au nom de notre cause, c'est Oslo.
Et tout ça, Omar, dans un contexte de crise qu'on connaît entre le Venezuela et les États-Unis.
Oui, l'administration Trump mobilise actuellement dans la mer des Caraïbes la plus grande force navale depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Officiellement, pour lutter contre le narcotrafic, un déploiement soutenu par Maria Corina Machado, critiqué pour sa proximité avec le président américain, à qui elle a dédié son prix Nobel avant d'appeler à finir le travail pour établir la démocratie au Venezuela.
Et notre invité Omar nous a rejoint. Bonjour Yoleti Bracho.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon, spécialiste du Venezuela notamment. Ce n'est évidemment pas un hasard si les États-Unis de Donald Trump aident Maria Corina Machado aujourd'hui.
Non, pas du tout. Maria Corina Machado est une alliée de longue date des États-Unis et en fait en particulier de l'administration Trump, à qui, comme vous l'avez dit, en fait, elle a remercié donc le soutien au moment d'obtenir le prix Nobel de la paix. Prix Nobel que d'ailleurs Donald Trump espérait soit pour lui et il semblait être assez malheureux en fait au moment où c'était elle qui l'a obtenu. Et en fait, si elle est soutenue de cette manière-là, c'est aussi parce que ce qu'elle propose, c'est justement la défense aussi des intérêts états-uniens dans l'occasion d'une présidence de sa part ou de ses alliés au Venezuela. Que ce soit intérêt pétrolier ou encore aussi l'enjeu de le contrôle des migrations vers les États-Unis. Voilà, on voit très bien que cette alliance est très fonctionnelle des deux côtés.
Que représente-t-elle, pour qu'on comprenne bien, Yoleti Bracho, au Venezuela? De quel soutien bénéficie-t-elle aujourd'hui?
Elle a une figure très importante pour le... traditionnelle, notamment parce que l'année dernière, en fait, les élections présidentielles, elle a réussi à rassembler en fait cette volonté de la population vénézuélienne de voter contre Maduro. Elle est aussi très importante de fait de la stratégie qui a été mise en place donc en 2024 de sa part et ses alliés pour récupérer les PV en fait des bureaux de vote qui ont permis de prouver la fraude électorale, en fait qui ont permis de prouver
le Yoleti Bracho, on va peut-être essayer de vous rappeler parce qu'on est interrompu et on n'entend pas bien, on ne comprend pas bien vos propos qui sont en plus évidemment très importants et très intéressants. Je vous propose qu'on aille en attendant qu'on puisse vous rappeler aux États-Unis justement où 200 000 fonctionnaires fédéraux ont été massivement mis à la porte par l'administration Trump cette année. Une tendance se dessine, des dizaines d'entre eux veulent continuer à se rendre utiles en se présentant aux prochaines élections. C'est un reportage reportage d'Agathe Mahué.
Michael Duffin a consacré 12 ans de sa vie au ministère des Affaires étrangères, dont 9 à la lutte antiterroriste, poussée dans cette voie par les attentats du 11 septembre. Jusqu'à son licenciement en juillet, comme 1300 de ses collègues, il ne le comprend toujours pas.
La suppression de nos postes et des programmes de lutte contre le terrorisme compromet notre sécurité à tous, car la menace continue.
Travailler dans le public, une évidence, malgré un salaire moins important. Michael raconte avoir prêté serment sur la Constitution à sa prise de fonction, comme tout travailleur fédéral. Alors une fois sans emploi, il a cherché une autre façon de se rendre utile au public. Michael veut devenir représentant de l'État de Virginie au midterms de novembre l'an prochain. Sa campagne pourrait trouver de l'écho. Dans sa circonscription proche de Washington, plus de 10% de la population a travaillé ou travaille encore pour le gouvernement fédéral. Il dit s'engager au nom de ceux qui ont peur de parler, par crainte de perdre leur emploi. Et ils sont déjà des dizaines, comme Michael, à se lancer. Rien que dans son groupe sur la messagerie Signal, 20 ex-fonctionnaires en route vers une élection. Et d'autres rejoignent le mouvement chaque semaine. Tous ne se lancent pas jusqu'au Congrès. Parfois, ce sont des scrutins plus locaux, mais l'idée reste la même.
Si nous sommes élus, nous pourrons apporter un changement positif après la destruction de tant de services qui sont essentiels pour les États-Unis comme pour le monde d'ailleurs.
Michael dit vouloir participer notamment à la remise en place de l'USAID, l'aide américaine dédiée à l'international. Son atout à lui pour l'élection ?
Je ne m'attends pas à avoir le soutien des démocrates en Virginie. Et cela peut être un avantage, car je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de colère envers les deux partis. Moi, je ne suis pas politicien de carrière. À voir si cela me permettra de créer la surprise.
Reste à trouver aussi comment financer sa campagne. Michael Duffin dit souhaiter une réforme en la matière pour éviter que de trop gros fonds privés aillent à l'encontre de l'intérêt du peuple américain.
Voilà pour ce reportage aux États-Unis d'Agathe Mahué. Revenons donc à la réapparition de Maria Corina Machado, qui a pu s'enfuir du Venezuela pour aller retrouver sa récompense de prix Nobel de la paix. Nous avons rejoint Yoleti Bracho, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université d'Avignon, spécialiste du Venezuela. Entre autres, vous nous expliquiez ce que représentait Maria Corina Machado au Venezuela, allié de Trump. C'est en quelque sorte la version la plus extrême de la droite au Venezuela.
Oui, d'ailleurs, en fait, il y a des acteurs de l'opposition traditionnelle vénézuélienne dont elle fait partie, qui justement, en fait, voient en elle des compositions un peu trop extrêmes, entre autres aussi le fait de son soutien aux potentielles actions militaires, en fait, de Donald Trump dans le pays, mais aussi le fait qu'elle a légitimé par son discours aussi la politique d'expulsion des migrants vénézuéliens que l'administration Trump a commencé à faire. En fait, aujourd'hui, il y a plus de 600 000 personnes aux États-Unis, plus de 600 000 Vénézuéliens qui ont perdu un statut de protection spécifique qui leur a été donné par l'administration précédente. Et en fait, elle, avec son accompagnement et avec sa légitimation de discours trompiens, elle fait aussi, d'une certaine manière, une légitimation de la politique de la part de Donald Trump, en fait, d'ingérence sur le Venezuela.
Ça renforce, en quelque sorte, le discours anti-impérialiste du régime.
Oui, et l'enjeu étant que, du coup, le régime politique, il a aussi ça comme outil pour, en fait, l'instrumentaliser et ensuite développer des fortes formes de répression dans le pays. Puisqu'en fait, le plus que la pression militaire états-unienne, en fait, ça s'est avancé sur la Caraïbe et s'est posé sur le régime, le plus aussi que, du coup, au sein de pays en tant que tel, nombreuses figures d'opposition se voient aussi particulièrement soumises en surveillance, à la répression, à des disparitions. Et pas seulement, du coup, l'opposition que représente Maria Corina Machado, qui est l'opposition traditionnelle, mais aussi des formes d'opposition de gauche qui sont moins visibles à l'étranger et qui pourtant sont aussi soumises à la répression du gouvernement.
Elle disait ce matin en arrivant en Norvège, tous ceux au Venezuela qui disent la vérité risquent leur vie. Est-ce qu'elle peut subir des représailles après cette fuite de la part du pouvoir de Nicolas Maduro ?
Tout à fait. C'est certain qu'un retour pour elle serait extrêmement risqué. De fait, le gouvernement Maduro est en train de dire actuellement que son départ n'était pas si rocambolesque que ça, qu'ils étaient au en départ, que de toute façon il avait eu les permissions pour le faire. Bon, on sait pourquoi il dit ça, parce qu'il veut aussi se montrer comme ayant le contrôle de tout ce qui se passe dans le pays, mais ça veut dire aussi du coup qu'au cas de retour, ils vont essayer à tout prix effectivement de la saisir. Elle est censée risquer en fait une prison pour trahison de fait de son départ de Venezuela.
Yoletti Brachaud, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes et pardonnez-nous pour la qualité de la liaison. Maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Bonne journée à vous.
France Info, midi 15h.
2h moins le quart sur France Info, à la une du Fil Info, Mélanie Delonnel, les députés qui votent pour garantir un avocat aux enfants placés.
Que ce soit en foyer, en famille d'accueil et pour chaque enfant, suivi également par les services sociaux, 380 000 jeunes sont concernés. Cette proposition de loi socialiste est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée. Elle doit maintenant passer au Sénat. Le président de la région Centre-Val-de-Loire parle d'un traumatisme. François Bonneau dit sur France Info ressentir de la colère, de l'incompréhension aussi après la liquidation judiciaire de Brandt et la suppression de près de 700 emplois au sein du groupe d'électroménager, une annonce qui survient à 2 semaines de Noël. Un conseil municipal tout à l'heure à Saint-Étienne pour élire celui ou celle qui sera maire jusqu'aux élections municipales du mois de mars. Après la condamnation de Gaël Perdriau il y a 10 jours dans l'affaire du chantage à la vidéo intime, Gaël Perdriau, déchu de ses fonctions, est condamné à 4 ans de prison ferme. Au Royaume-Uni, la police diffuse les images de 4 suspects. Ils sont recherchés après un vol dans un musée de Bristol fin septembre. 600 objets ont été dérobés. Ils font partie d'une collection qui est consacrée à l'histoire britannique.
France Info. C'est l'un des derniers fabricants d'électroménagers en France. Le groupe Brandt est donc placé en liquidation judiciaire. Décision du tribunal des affaires économiques de Nanterre qui écarte le projet d'une reprise en coopérative par les salariés. Cela veut dire que près de 700 emplois vont être supprimés. Les ministères de l'économie et de l'industrie, l'État s'était engagé dans ce projet de reprise, se disent profondément tristes aujourd'hui. Et Christophe Caillou ne dit pas autre chose. Il est l'ancien maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle où se trouve la principale usine de Brandt.
Je suis à la fois abasourdi par cette décision et très en colère. Abasourdi parce qu'il s'agit de 700 salariés, 350 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, des ouvriers, des ouvrières, des cadres, des ingénieurs qui se sont consacrés à faire vivre ce Made in France et complètement en colère parce que, alors qu'on érige la souveraineté industrielle en priorité, on laisse filer des marques iconiques, une entreprise qui fonctionne.
C'est à l'État que vous en voulez ?
Non. Je dis que dans notre pays, on a un vrai souci de mobiliser de moyens financiers, notamment lorsqu'on est confronté à ce type de situation. Moi, je regrette beaucoup que sur le dossier Brandt, par exemple, les pouvoirs publics se sont largement investis. Là, je ne critique pas, hein, mais il manque quand même le secteur bancaire, il manque le secteur privé. À un moment donné, les pouvoirs publics ne peuvent pas se substituer à ce qui est aussi l'économie. Donc on a besoin de mécanismes qui nous permettent d'agir rapidement, d'injecter de l'argent avec des fonds de soutien sur ce type de démarche, à travers les SCOP notamment, parce qu'on ne peut pas se laisser faire comme ça. Laisser fermer nos usines, notre savoir-faire, notre capacité d'innovation, c'est vraiment terrible.
Christophe Chailloux, l'ancien maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, où se trouve donc l'une des usines du groupe Brandt. C'est fini donc pour Brandt. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Brandt, c'est une histoire qui a traversé le siècle.
Brandt, c'est d'abord la machine à laver qui a changé le quotidien des femmes. Nous sommes en 1960.
Je vous présente ma meilleure amie, la machine à laver Brandt. Elle est jolie, discrète et très élégante dans sa robe en émail vitrifiée. Entièrement automatique, elle se charge de tout pendant votre absence.
Edgar William Brandt, le fondateur de la marque, est un ferronnier d'art et un industriel de l'armement. En 1921, c'est lui qui fabrique la dalle en bronze du monument du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Il crée sa propre marque en 1924, il y a 100 ans, mais c'est après-guerre que cet inventeur visionnaire se spécialise dans l'électroménager. 1949, premier lave-linge à agitateur. 1952, la barboteuse essoreuse détrône les bassines de linge dans les foyers français, 6000 unités vendues chaque mois. Puis arrivent les programmateurs. 1962, avec la Stato 47, Brandt devient numéro 1 français du lave-linge. La marque va aussi s'imposer sur le marché des réfrigérateurs, se déployer finalement partout dans les maisons, lave-vaisselle, sèche-linge, four, micro-ondes. Dans les années 90, Brandt se distingue aussi en contribuant avec son modèle accessible à une diffusion massive des plaques à induction dans les foyers français.
Le groupe de gros électroménagers français, Brandt, ce sont aussi, Angélique, 3 autres marques.
Oui, Sauter, De Dietrich et Vedette, marque absorbée au fil du temps. Le groupe revendique son savoir-faire français, nombre d'innovations techniques et un souci très affirmé de protéger l'environnement. Retournons dans les années 70 avec le choc pétrolier, la crise énergétique. Pour son lave-linge Vedette, c'est la star de la pub, la célèbre Mère Denis, véritable lavandière devenue égérie de la marque, qui se met en scène devant les draps blancs étendus dans son jardin et qui rappelle que lorsqu'elle était jeune, elle ne gaspillait rien.
Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière.
C'est vrai, Mère Denis, nos grands-mères n'aimaient pas le gaspillage et elles avaient raison. Aussi, chez Vedette, nous avons conçu une machine à laver qui utilise juste ce qu'il faut d'eau et juste ce qu'il faut d'électricité.
Vedette mérite votre confiance.
Ça, c'est vrai, ça.
Le lave-linge économiseur d'eau, c'est l'une des innovations revendiquées par le groupe Brandt, dont les marques étaient distribuées dans 36 pays.
Angélique Boin, cellule décryptage de France Info. Vous entendiez tout à l'heure l'ancien maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, Christophe Salou. Il était au micro d'ici Orléans. Découvrons à présent ce qui est la bête noire des pêcheurs. La colère monte contre le cormoran. Depuis le début de l'hiver, les fédérations de pêche un peu partout en France accusent cet oiseau de décimer les populations de poissons dans les rivières. Sauf que le cormoran est une espèce protégée. C'est pour ça que depuis 3 ans, la Ligue de protection des oiseaux a fait casser par la justice les arrêtés qui permettaient d'en tuer un certain quota pour réguler la population. Les pêcheurs dénoncent un désastre écologique. Le sujet est devenu très sensible. Comme vous l'avez constaté, Marc Bertrand dans le Périgord. Les pêcheurs de la vallée de la Dordogne réclament d'urgence le retour des tirs de régulation.
Les bottes aux pieds, Guilain Bataille montre sa plage. Sur un bras mort de la Dordogne, des barques vides sont accrochées au bord.
Ici, là où on est aujourd'hui, c'était un endroit où il y avait tout le temps des pêcheurs. Là, vous voyez, il n'y a plus de pêcheurs. Parce que dès que les poissons arrivent, ils se font tous manger. Et on voit là.
Ils lèvent les yeux au ciel. Là. Les grands oiseaux noirs rôdent au-dessus de l'eau.
Ça, c'est des cormorans. Donc, ils sont en l'air. Ça veut dire qu'ils cherchent l'endroit où ils vont pêcher. Quand ils sont arrivés, là, au mois de septembre, il n'y en avait plus de 100. Là. Alors, un cormoran, ça mange 500 grammes de poissons par jour. Il y a des poissons qui se jettent sur le bord tellement ils ont peur des cormorans. Quand on le voit, quand on le vit, quand on connaît la vie de la rivière et qu'on défend les poissons, on considère que c'est un carnage.
Les pêcheurs disent que le manque de poissons sur les côtes a poussé les cormorans à remonter les rivières. Guilain nous emmène en voiture sur un étang.
Bonjour. Comment tu vas ?
Des pisciculteurs en cirée jaune sont en train de récupérer les poissons qu'ils élèvent pour la pêche.
Les cormorans. Ils ont tout bouffé.
Le patron saisit un brochet de 40 cm de long.
Là, on voit partout là, qu'il y a des impacts de bec. Ça, c'est un poisson qui ne va même pas survivre. Bon, il faut savoir que d'habitude, on sort 1,5 tonne de poissons. Et que là, on va en sortir 100 kg, je pense, pas plus. On n'a que nos yeux pour pleurer.
Un pêcheur s'approche. Il n'a qu'une chose à dire.
Un bon cormoran, c'est un cormoran... Non, mais franchement, on est envahi.
Le sujet est électrique. Entre les pêcheurs et la Ligue de protection des oiseaux, le président de la pêche de l'Ain a même été condamné en justice pour avoir comparé la LPO à la Gestapo. Jean-Michel Ravaille, président des pêcheurs de Dordogne, utilise un autre mot.
J'emploierais celui d'extrémisme.
Extrémisme.
Oui, extrémisme. On est très très loin du bon sens. Force est de constater que depuis 3 ans d'arrêt de la régulation, les populations de poissons sont en train de baisser vertigineusement. Personne ne s'émeut de la disparition du brochet classé en danger dans nos cours d'eau. J'ai souvent pour habitude, hélas, de dire que tout ce qui se passe sous la surface de l'eau n'intéresse pas grand monde.
La LPO répond que les pêcheurs se trompent de coupables.
Je ne sais pas pourquoi cette haine du côté des pêcheurs qui ne supportent pas la présence des cormorans sur les cours d'eau, parce que probablement... qui pêchent mieux qu'eux.
Yoann Charbonnier, chargé de mission scientifique de l'association, y voit beaucoup de mauvaise foi.
Faire porter le chapeau au cormoran de la disparition des poissons, c'est ne pas vouloir voir l'effet des espèces exotiques envahissant.
Le silure ?
Le silure, évidemment, mais le black bass, le cendre, souvent relâché d'ailleurs pour la pêche de loisirs. Clairement, les truites arc-en-ciel sont relâchées, ou plutôt je devrais dire déversées par les fédés dans les ruisseaux. C'est un peu comme si vous relâchiez dans la forêt des tigres ou des lions qui n'ont rien à faire dans la forêt périgourdine.
La preuve, selon la LPO, c'est que les derniers comptages ont dénombré 1488 cormorans en Dordogne. C'est moins qu'en 2021, quand les pêcheurs avaient encore le droit de les tirer.
Reportage en Dordogne, signé Marc Bertrand. « Découvrons à présent ce documentaire. Ça s'appelle « Elle n'entend pas la moto ». C'est en salle depuis hier dans une centaine de cinémas en France. Et c'est l'histoire d'une famille filmée par la même réalisatrice pendant 25 ans. Deux des trois enfants étaient sourds à la naissance. Et à travers Manon, qui a surmonté son handicap pour devenir kinésithérapeute et qui a décroché son brevet de pilote d'avion, on découvre donc une famille hors du commun. Reportage d'Anne-Laure Dagnier.
Le film démarre dans une voiture. On est à l'arrière, à côté de Manon, qui arrive avec son fils et son compagnon dans le chalet de ses parents, en Haute-Savoie. Très vite, Maxime apparaît sur des photos de famille que la grand-mère montre à son petit-fils.
Tu sais que maman, elle n'entend pas, maman.
Elle n'entend pas.
Oui, et ben c'est...
Elle n'entend pas la moto.
Non, et son petit frère Maxime, pareil, il n'entendait pas. Donc regarde, t'as vu, il parle avec les mains. T'as vu sur les photos ? Voilà Maxime, dans les nuages, qui nous envoie des messages.
La famille se réunit pour rendre hommage à Maxime, le petit frère de Manon, disparu il y a 8 ans.
Et tu vois que quand même 8 ans après, c'est toujours,
oui.
Toujours c'est, difficile.
C'est
hein
douloureux, oui.
Je suis impressionnée par la force que vous avez.
C'est beau.
Oui, tout est beau dans ce film. Les paysages, les fragilités et les forces de chacun révélées par la réalisatrice Dominique Fischbach, qui suit Manon depuis qu'elle est toute petite. En fait, elle cherchait une famille pour faire un documentaire et depuis, elle ne l'a plus quittée.
Ce qui m'a poussée à faire le film, c'est la rencontre avec Manon. Cette petite Manon qui était toute vive, rebelle et qui traversait un moment difficile dans sa vie puisqu'elle devait abandonner sa passion, m'a beaucoup touchée. Et je me suis lancée dans cette aventure à ce moment-là. Donc j'ai choisi Manon plus que la surdité.
À travers les images d'archives de la réalisatrice et de la famille, on découvre Manon, enfant, qui doit abandonner la gymnastique en plein championnat de France parce que c'est dangereux pour son implant auditif. C'est pas facile à gérer quand on a seulement 11 ans. Pas facile non plus pour sa grande sœur, Barbara.
Tout le monde trouve que tu es énervée, qu'est-ce qu'il y a ?
Mais t'as pas de graine ?
Tu as raison, c'est fatigant l'hôpital, l'orthophonie, tout ça. Je sais, mais c'est pas... Tu pourrais aussi faire des efforts, c'est tout.
Mais moi, t'as ce que tu vas aller à ma place ?
Non.
Eh ben, jamais.
Alors t'es pas gentille.
C'est un moment clé du film pour la réalisatrice Dominique Fischbach.
Cette séquence est très importante dans le film parce que quand Manon dit « tu veux ma place ?», c'est un peu ce que je demande au spectateur, c'est de prendre la place de Manon et de s'approcher de son point de vue sur le monde parce que la surdité donne forcément une autre perception du monde.
Et malgré les difficultés, Manon est devenue kinésithérapeute et elle a décroché son brevet de pilote. Mais son frère Maxime n'a pas eu le même soutien à l'école. À 6 ans, il s'est retrouvé dans une classe sans aucune aide, ce qui met Manon très en colère. Elle voudrait que ça change.
Comment est-ce que recevoir un enseignement en ne pouvant pas capter ce que dit le professeur sans outil linguistique adapté, ce qui fait que pendant un an, et c'est un objet. Voilà, l'éducation nationale a déjà détruit Maxime. Maxime est fort, il a mené un combat, il a ce mérite incroyable. Mais il faut que ça change. Et il faut que ce film aille le plus loin possible, le plus haut possible et le plus large possible.
Elle n'entend pas la moto au cinéma depuis hier. C'était un reportage d'Anne-Laure Dagnier.
Un repas de réveillon, à quel prix ?
Journée spéciale sur France Info.
Chocolat, foie gras, dinde, champagne, combien coûtent les produits phares des fêtes ?
En partenariat avec le réseau ICI, nous vous dévoilons le prix du panier moyen de Noël.
Toute la journée, reportage avec les producteurs et les consommateurs et nos invités.
Un repas de réveillon, à quel prix ? Journée spéciale sur France Info. Sur les assistants vocaux, aussi, l'info, c'est France Info.
Il vous suffit de demander...
Mais France Info.
Et vous êtes sur France Info.
Une bonne nouvelle pour la planète. La Chine annonce que sa capacité en énergie éolienne et solaire dépasse pour la première fois celle issue des installations thermiques. Le pays construit aujourd'hui près de deux fois plus de capacité éolienne et solaire que tous les autres pays réunis.
Sur les assistants vocaux...
France Info.
Pas juste l'info, l'info juste.
Ça a commencé quand j'ai découvert Love Train Italia. 14 allers-retours Paris-Lyon, 14 euros, 14 décembre. Le lendemain, plus rien n'était pareil. Je me réveille à 14h et il fait 14 degrés. J'arrive au bureau, 14 mails non lus. Non mais c'est dingue!
C'est la 14 mania chez Train Italia. Ce 14 décembre, les billets Train Italia sont à 14 euros seulement sur les 14 allers-retours Paris-Lyon. Réservation et conditions sur trainitalia.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Des températures encore très douces pour la saison, Céline Dacosta.
Oui, et ça, même si elle baisse un petit peu cet après-midi, en tout cas sur la moitié nord, on va rester encore 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison, 9 degrés à Paris, 11 à Strasbourg, 12 à Lyon, 13 à Brest, 16 à Marseille et 18 pour Biarritz.
Et si elle baisse un peu sur la moitié nord, c'est à cause de la grisaille.
Oui, des nuages bas qui résistent hein, depuis ce matin, une grisaille parfois épaisse qui sera bien présente jusqu'au soir, des nuages bas. On en a également sur le Languedoc-Roussillon avec quelques gouttes, mais pour le reste de la moitié sud, le ciel est plutôt lumineux avec un soleil parfois voilé mais bien présent. Et puis un vent d'autan qui se lève doucement sur les plaines toulousaines. Alors ce sera quand même un vent assez léger, on va dire, pour du vent d'autan, 50 à 60 km à l'heure. Et puis on a une nouvelle perturbation pluvieuse qui va arriver en fin de journée sur le quart nord-ouest mais qui ne rentrera pas dans les terres.
Et comment se présente la suite, les jours qui viennent?
Alors justement, cette petite perturbation qui ne va pas rentrer dans les terres, on va la retrouver demain, toujours sur le quart nord-ouest, hein, entre la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire, avec quelques averses, ça va rester faible. Pour le reste du pays, bah, ça sera encore bien gris dès le matin. Beaucoup de grisailles, un petit peu plus de lumière sur le centre, hein, sur le massif central ou alors le Limousin. Et puis dans l'après-midi, le ciel va rester très couvert sur la moitié nord. On va quand même gagner en luminosité pour le reste du pays, puisque le soleil sera quand même bien présent. Les températures vont rester douces. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à échéance raisonnable, nos prévisionnistes de Météo France ne voit pas du tout le retour de l'hiver de sitôt.
Et vous avez enlevé vos lunettes pour nous
tout
dire
à fait.
Ça.
Merci Céline. J'y vois beaucoup plus clair d'un coup.
Bon après-midi à tous. Merci d'écouter France Info. Il est 14h. Benjamin Recouvreur pour l'info.
Le projet de reprise en SCOP, Société Coopérative, n'a pas convaincu le tribunal des affaires économiques de Nanterre qui a prononcé ce matin la liquidation judiciaire de Brandt, le dernier fabricant de gros électroménagers en France. 700 emplois vont être supprimés. Deux usines situées en région Centre-Val de Loire vont fermer. Le président de la région dit sur France Info sa stupeur. Les 207 bovins du troupeau de l'Ariège touchés par un cas de dermatose nodulaire doivent être abattus aujourd'hui malgré l'opposition de plusieurs centaines d'agriculteurs toujours mobilisés autour du village des Bordes-sur-Arize. C'est la meilleure solution pour protéger le cheptel français, selon le préfet, qui regrette ce matin une situation dramatique. Le successeur de Gaël Perdriau sera bientôt élu. Le